premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux itinéraires de voyage, à la route et à celles et ceux qui la parcourent. Demain, Christelle de Polotech et Anne Fleury nous proposent un documentaire sur un itinéraire très 19e, celui qui conduisit les Parisiens à la mer vers le Havre. Mercredi, nous nous intéresserons aux routes de pèlerinage et jeudi à ce que l'automobile a changé à notre perception de ces mêmes routes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un homme, ils ne sont pas si nombreux, dont le nom propre s'est transformé en un nom commun qu'on utilise beaucoup ces temps-ci, Alexis Godillot. Pour ce faire, nous avons le plaisir avec Christelle de Polotech, qui a préparé cette semaine avec nous, de recevoir l'historien Antoine Debacque, professeur à l'École normale supérieure, auteur chez Anna Moza des Godillot, manifeste pour une histoire marchée. Avec lui, nous allons évoquer le destin de l'inventeur Alexis Godillot, mais aussi de son invention, les Godillot et autres godasses. Bonjour Christelle de Polotech.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bonjour à vous Antoine Debacque.
Bonjour.
Merci d'être venu nous parler de ce livre qui est tout juste paru. Il est sorti il y a maintenant quelques mois, c'était en février chez Anna Moza, une nouvelle maison d'édition dont nous parlons de temps en temps dans la Fabrique de l'Histoire, qui publie des livres d'histoire. Et en l'occurrence, vous avez choisi un sujet un peu particulier. Si on ne vous connaît pas, si on vous connaît, on sait pourquoi vous avez choisi ce terme de Godillot comme sujet d'un livre et d'un livre d'histoire, parce que c'est un livre d'histoire, parce que vous êtes marcheur vous-même et parce que vous avez inventé, pourrait-on dire, l'histoire marchée.
Oui, enfin c'est oui. J'ai en tout cas défriché un champ qui était assez vierge en France, hein, qui est l'histoire de la marche. Voilà, l'histoire de la marche.
Avec un livre qui s'appelait La Traversée des Alpes.
La Traversée des Alpes sur l'histoire de ces chemins qui se sont réunis dans le GR5 pour permettre aux marcheurs de traverser les Alpes en un mois de randonnée. Et c'est vrai que, en faisant cette histoire de la marche, je me suis aperçu que faire l'histoire de la marche, et c'est donc ça que j'ai essayé d'appeler l'histoire marchée, c'était aussi proposer une méthode presque à l'historien, c'est-à-dire une sorte de traversée des temps et des champs de l'histoire. Traversée des temps, puisque la marche, voilà, une histoire immémoriale, et en tout cas elle est marquée par des moments comme ça très... très avec une forte singularité, des moments d'identité marcheuse très forte, et puis des chants, parce que outre la métaphore naturelle, quand on marche on traverse des chants, et quand on fait l'histoire de la marche on traverse l'histoire culturelle, l'histoire du corps, l'histoire de l'industrie, ici de l'industrie de la chaussure, l'histoire des représentations, l'histoire de la politique aussi, les Godillot. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse dans cette histoire marchée, c'est une sorte de proposition méthodologique qui permet aux historiens de traverser comme ça des strates de temps, de temporalité et des disciplines différentes.
Et d'éprouver aussi un certain rythme, le rythme de la marche.
Absolument. L'historien retrouve son corps. Ça me semble être quelque chose d'important. Non seulement parce que tout marcheur a ce sentiment, en tout cas quand je marche, moi j'ai ce sentiment de l'histoire, hein, et c'est un sentiment qu'on éprouve avec son corps, avec son endurance physique, c'est-à-dire de voir une sorte de paysage comme ça vertical, une verticalité devant vous qui aligne les strates géologiques, mais aussi les strates historiques. Donc on fait l'expérience de l'histoire avec son corps, en frottant son corps sur le terrain et en l'amenant sur dans la dans la nature, sur les lieux même où l'histoire s'est imprimée. Et puis d'autre part, c'est vrai que l'historien, quand il marche, il devient une sorte de petite bibliothèque ambulante. Hein, au fur et à mesure des étapes d'un grand voyage, par exemple. La traversée des Alpes, pour reprendre cet exemple-là, je chargeais mon sac à dos d'archives, par exemple, voilà, de choses découvertes dans les refuges, de choses découvertes dans les bâtiments, les monuments qu'on traverse, les petits villages, voilà. Et tout d'un coup, on devient soi-même une sorte de corpus d'histoire nomade, comme ça. Et il y a une expérience physique du corps de l'historien.
Ouais. Christelle de Polotec.
Oui, d'ailleurs, dans l'introduction, vous remontez au pèlerinage, vous racontez justement que dans certains guides de pèlerins, il est indiqué les ateliers de tannerie le long du chemin où les pèlerins vont pouvoir faire réparer leurs chaussures. C'est-à-dire que c'est une préoccupation, évidemment. Dès ce moment-là, pour les...
Oui, c'est-à-dire que on est là et on part, et quand on fait de la marche, quand on marche soi-même et quand on fait donc de l'histoire de la marche, il y a quelque chose de très matériel, hein, de très concret. Tout part des pieds, tout
qu'il
part de
protéger,
la chaussure
qu'il
faut protéger. C'est évidemment le souci premier, le trésor presque unique du marcheur, hein, ce sont ses pieds et cette protection des pieds, évidemment, elle est très très ancienne. On a retrouvé des chaussures de marche, par exemple, il y a l'armée romaine, hein, des sandales de marche cloutées chez les légionnaires romains. Et donc, voilà, il y a toute une... je dirais une industrie, un artisanat de la chaussure de marche qui s'est mis en place très tôt. Et effectivement, sur les grands itinéraires pédestres, par exemple le long du chemin de Saint-Jacques, il y a toute une série de non seulement de gîtes d'accueil des pèlerins, mais aussi de lieux pour réparer les chaussures des pèlerins. Oui, puisque on estime qu'une chaussure peut faire une chaussure de l'époque peut faire entre 5 et 600 kilomètres. Hein. Donc voilà, si on fait le chemin de Saint-Jacques dans sa totalité, il faut réparer sa chaussure deux ou trois fois.
Avec cette idée que les chaussures se mettent à Paris, sucent à Poitiers et se jettent ou se laissent à Bayonne.
C'est voilà, c'était un général de l'armée au 19e siècle, de l'armée de Napoléon, du début du 19e siècle, qui a créé cette maxime. Et c'est pas innocent parce que, voilà, les godillots, en fait, naissent sous le Second Empire, mais sont un héritage du premier. C'est-à-dire que c'est la stratégie militaire. Et donc, quand on fait l'histoire de la marche, on fait aussi l'histoire des militaires. Et la stratégie militaire de Napoléon Ier, hein, son génie stratégique, c'est un génie de la marche. Hein. C'est-à-dire c'est le déplacement des armées.
Le
plus rapide possible, avec des déplacements qui pouvaient atteindre 30 à 40 kilomètres par jour. Hein. Pour une armée, c'est vraiment des choses extrêmement... c'est une guerre de mouvement, hein, que réinvente Napoléon, et pour cela, évidemment, les techniques de marche et les chaussures de marche sont quelque chose d'essentiel. Toute l'histoire des godillots naît de cette stratégie de guerre de mouvement.
Christelle de Polotec.
Et cette histoire, dans ce manifeste pour une histoire marchée, vous la faites naître donc au 19e siècle avec Alexis Godillot. C'est votre point de départ, un personnage incroyable, industriel, affairiste et puis symbole d'une certaine manière de l'Empire.
Oui, du Second Empire. Donc effectivement, Alexis Godillot est un destin comme ça à la fois de self-made man et de grand entrepreneur, hein, de grand aventurier de l'industrie, comme les aimait beaucoup le Second Empire, Napoléon III, puis Zola, par exemple, il aurait pu être un héros d'un roman de Zola. Alexis Godillot, il vient de pas grand-chose, donc son père monte à Paris depuis Besançon pour fonder le Bazar du Voyage, qui est une petite entreprise de maletterie, hein, il fabrique en cuir, comme ça, des ustensiles, des valises, tout ce qui sert au voyage, et Alexis Godillot va, donc installé à Paris avec ses parents, va grandir dans cette petite entreprise au Bazar du Voyage. Il va devenir comme ça le maître du Bazar du Voyage et avoir cette vision que l'industrie du cuir hein, va pouvoir le rendre riche, et d'autre part cette vision devient une sorte de projet industriel hein, qui est assez étonnant. À la fois il y a chez lui un grand souci de la qualité des produits, mm-hmm. donc voilà, c'est d'autre part c'est un, on peut dire une sorte de génie commercial hein. il a le sens du commerce, il sait vendre ses produits, et puis il a le sens aussi de l'instant décisif comme ça, et donc il devient d'abord un petit peu le grand maletier du régime hein, de
Napoléon III
du président Bonaparte
hein, ah oui déjà
voilà au début de après la Seconde République, et puis ensuite il comprend que d'une part il peut comme ça profiter de l'essor du régime, et notamment un essor politique, donc il va devenir ce qu'on appelle le tapissier de l'Empire hein. C'est lui qui organise toutes les fêtes impériales, notamment tout le décorum de ces fêtes
hein. Oui, donc on le retrouve dans la thèse de Xavier Mauduit en particulier sur la maison de l'empereur,
voilà, construire les gradins, faire organiser toute l'organisation matérielle des fêtes, c'est Godillot qui le fait, et puis peu à peu il comprend que le vrai enjeu est un enjeu militaire, et que là où il y a la fortune véritablement à faire, c'est en devenant ce qu'on appelle fournisseur aux armées. Et donc il va créer une industrie littéralement capable de fabriquer en masse, puisque voilà, on est devant des masses de soldats équipés, et notamment en chaussures. Et donc le Godillot crée une sorte d'usine intégrée, hein, extrêmement moderne.
Il faut s'arrêter là-dessus. Il s'installe à Barbès, à Rochechouart.
À Rochechouart,
donc ouais. dans Paris, dans le nord de Paris. Mais il a aussi une tannerie.
Une tannerie à Saint-Ouen.
À Saint-Ouen. Voilà. Et l'ensemble est intégré. Il y a même une deuxième usine qui va ouvrir à Nantes un peu plus tard. Et tout cela, c'est d'une certaine façon pour aller du début jusqu'à la fin du processus, comme tout industriel qui se respecte, c'est-à-dire avoir la matière première sous la main et la travailler pour ensuite faire des chaussures et des godillots, c'est ça?
Absolument, il y a cette idée de contrôler la production, la chaîne de production d'amont en aval, mais il y a aussi chez Alexis Godillot un souci de productivisme, hein. Ce n'est pas travailler plus, mais travailler mieux, avec un travail. C'est littéralement, on peut dire, l'invention du travail posté. Hein. C'est Godillot est un des inventeurs de ce qu'on appellera le travail à la chaîne. Hein. C'est-à-dire que chaque ouvrier dans l'usine de Rochechouart a une tâche précise, et les éléments de la chaussure, il les assemble. Voilà, on est vraiment devant un travail, ce qu'on appelle un travail posté, et avec une efficacité qui est assez redoutable, c'est-à-dire qu'en quelques mois, la productivité de l'entreprise est multipliée par 3. Et donc, voilà, Godillot peut produire 1 million de chaussures par an. Et comme ça.
Et à des coûts moins élevés que ses concurrents.
Évidemment, son usine est très moderne. Il s'équipe essentiellement de machines américaines hein, qui va chercher aux États-Unis. Et donc, voilà, il y a la véritable invention de Godillot, en fait, c'est moins la chaussure elle-même, puisque là, son souci de la qualité lui fait reprendre toute une série d'innovations qui avaient été récentes, notamment, par exemple, la distinction pied gauche, pied droit. C'est une chaussure solide. C'est ce qui s'appelle un brodequin napolitain, c'est-à-dire une chaussure qui monte sur les chevilles. Donc, tout ça était des inventions technologiques récentes. Il en profite en prenant les meilleures machines qui lui permettent de faire ça. Mais sa véritable invention, c'est la production de masse de cette chaussure relativement performante, même si elle n'est pas très confortable, il faut bien le dire.
Christelle de Polotech.
L'autre révolution, c'est aussi que ce soit un industriel privé qui se charge de cette commande monumentale. Et vous le dites, il y a, d'une certaine manière, l'idée, c'est de laver l'injure, c'est-à-dire que l'armée a été traitée de va-nu-pied, et du coup, c'est une raison pour laquelle il y a cette commande monumentale qui va intervenir.
Oui, il y a chez Alexis Godillot un souci et une compréhension très juste du rapport qu'il peut avoir avec le pouvoir public, donc d'abord avec l'empereur. Hein. Il est très proche de l'empereur, il est si proche d'ailleurs qu'il est une sorte de sosie de l'empereur et qui cultive cette proximité physique. Il y a des histoires qui, que, qui traîne des rumeurs comme quoi on l'aurait confondu avec l'empereur. Il est très fier de tout ça. Donc
c'est un vrai courtisan.
Oui, c'est un notable du Second Empire et il est un symbole du Second Empire et il en profite. Il profite aussi de la politique qu'on appelle de contre le paupérisme de Napoléon III. C'est-à-dire que en face de l'usine de Rochechouart, il y a une sorte de regroupement d'ouvriers modèles fait par Napoléon III sous l'égide de Napoléon III et qui viennent travailler dans son usine. Donc il y a comme ça des sortes d'alliances objectives. Après, pour Godillot, évidemment, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il est tellement le symbole du Second Empire qu'à la défaite de 70, il est remis en cause, mais il surmonte ce petit moment de trouble parce que justement il a réussi à mettre en place une véritable industrie et la France de la revanche a besoin de cela, puisque effectivement le Godillot comprend aussi cela. La revanche s'établit à tous les étages en quelque sorte de la société française. C'est à la fois la revanche, il faut que les soldats soient mieux formés, c'est-à-dire qu'ils marchent mieux avec des meilleures chaussures, et les Godillots sont considérés comme la meilleure chaussure pour une armée en marche, pour une armée comme ça de guerre de mouvement. Donc ça, Godillot là-dessus l'a très bien compris. Et puis d'autre part, le Godillot va devenir un des emblèmes de ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire de la revanche. Le Godillot, c'est l'emblème du soldat à la fois bien équipé, bien formé, fier d'être envoyé face à l'armée prussienne, l'armée allemande. Donc le Godillot va peu à peu devenir véritablement une sorte de d'emblème de la culture de la revanche.
Alors tout de même, au moment de la chute de l'Empire, du Second Empire, on va lui chercher un peu les poules dans la tête.
Bien sûr.
Forcément, il a fait une fortune considérable en vendant à l'armée française des centaines de milliers, voire des millions de chaussures, de paires de chaussures,
mais pas simplement. Dans une position quasi de monopole aussi, c'est ça qui effectivement le rend fragile.
On lui reproche d'avoir eu ses contrats passés sans publicité ni concurrence, qui rappelle effectivement des affaires plus récentes en l'occurrence, mais tout compte fait, ça prendra du temps, mais il finira par devenir vraiment le fournisseur officiel. Et le Godillot va devenir, à partir de 1881, je crois, la chaussure officielle de l'armée française.
Absolument.
De l'armée républicaine.
Oui, oui, l'armée républicaine adopte le Godillot. L'armée française en 1870 était a volé en éclats assez vite, mais tout le monde a reconnu qu'elle était bien chaussée. Ça faisait une belle jambe, en quelque sorte.
Contrairement à la guerre de Crimée, où elle était mal
voilà,
chaussée.
Voilà, absolument. Il y a eu ce renversement. Il y a eu une prise de conscience au moment de la guerre de Crimée que les soldats français étaient mal chaussés, alors que pourtant, ils comptaient sur la chaussure, puisque c'était une armée en marche. Donc il y a eu
L'armée nouvelle en marche, d'ailleurs, c'est le titre d'un livre de Léonce Bouvrier, qui n'est pas d'accord avec Godillot, qui a dit pour une chaussure militaire réformée en l'occurrence.
Oui. Le En Marche est une locution qui est extrêmement Troisième République, naissance de la Troisième République. on va la retrouver beaucoup. Parce que, oui, l'armée française a besoin d'être bien chaussée. Ça fait partie de tous ces projets de régénération de l'armée, de réforme de l'armée. Donc, dans les statuts de l'armée française, il y a le Godillot est tout à fait réglementé avec la taille, le nombre de clous, etc. Et donc, ça s'adapte parfaitement au Godillot fabriqué par Godillot. Donc, peu à peu, par un phénomène, il y a un mot savant qui dit ça, qui s'appelle l'antonomase. Le mot Godillot devient un mot courant, un nom commun, et on va oublier très vite Alexis Godillot, notamment parce que lui-même oublie cette industrie. À partir des années 1875-70-80, il s'installe à Hyères essentiellement. Il va devenir un peu le grand mécène de la ville de Hyères dans le Midi, et voilà, il délègue son pouvoir dans l'usine Godillot, qui va brûler en 1895. C'est un grand incendie, on voit des flammes partout, de tous les points de vue de Paris. C'est un immense incendie qu'on compare à l'époque, qu'on comparera à l'incendie du bazar de la Charité. Il y a moins de morts, mais en même temps, c'est un incendie extrêmement spectaculaire et les usines Godillot partent en fumée.
La première qui arrive, c'est la fille à Martin.
La première qui arrive, c'est la fille à Martin.
Assoyez-vous la belle sur votre sac de grain.
Les godillots sont lourds dans le sac, les godillots sont lourds. Les godillots sont lourds dans le sac, les godillots sont lourds.
Assoyez-vous la belle sur votre sac de grain.
Assoyez-vous la belle sur votre sac de grain.
La belle s'est endormie au tic-tac du moulin.
Les godillots sont lourds dans le sac, les godillots sont lourds. Les godillots sont lourds dans le sac, les godillots sont lourds.
La belle s'est endormie au tic-tac du moulin.
La belle s'est endormie au tic-tac du moulin.
Réveillez-vous la belle, car votre sac est plein.
Les godillots sont lourds dans le sac, les godillots sont lourds. Les godillots sont lourds dans le sac, les godillots sont lourds.
Réveillez-vous la belle, car votre sac est plein.
Réveillez-vous la belle, car votre sac est plein.
Que dira-t-elle ma mère de voir mon sac si plein?
Les godillots sont lourds dans le sac, les godillots sont lourds. Les godillots sont lourds dans le sac, les godillots sont lourds.
Que dirait-elle ma mère de voir mon sac si plein?
Que dirait-elle ma mère de voir mon sac si plein?
Tu lui diras ma fille, c'est le tic-tac du moulin.
Les godillots sont lourds dans le sac,
vous avez compris, c'était le titre de cette chanson dans une interprétation des années 70 collectée par l'UPCP, donc l'Union Populaire de Charente-Poitou de André Paché dans le Toircé, dans le nord des Deux-Sèvres. Donc c'est une chanson à répondre qui était devenue tellement célèbre qu'elle a été reprise sous divers tons un peu partout. C'est une des grandes chansons qui évoquent les godillots. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-unes.
Il y en a quelques-unes, c'est-à-dire que le godillot, devenu donc un nom courant, désignant la grosse chaussure des militaires, va connaître une fortune dans la culture de l'époque. Et c'est là où on voit comment travaille l'imaginaire d'une époque, hein, l'imaginaire de la revanche, hein, dans ce moment de la revanche, où le
fin 19e, début 20e,
voilà, le soldat, le militaire est au cœur de du symbolique de la nation, et donc se diffuse par des vecteurs culturels très nombreux, une sorte de popularité comme ça de la figure du militaire, et le comique troupier, la
bien
chanson
troupière, ouvrard en
voilà, particulier. Et Ouvrard qui forge littéralement ce genre au début des années 1880, et puis qui a le génie. Ouvrard, c'est celui qui il a le génie de il veut absolument chanter ses chansons en habit militaire, mmh. Et c'est ça qui va faire la fortune de ce qu'on appelle les troupiers, hein, dans le mode comique ou dans le mode chanté, ou généralement d'ailleurs lié, hein.
Mais il y en aura beaucoup d'autres après lui. Il y aura Colin, il y aura Fernandez.
Voilà, exactement. Et il y a un interdit à l'époque. On ne peut pas se produire sur scène en habit militaire. Hein, voilà, on a peur que les soldats soient en quelque sorte
dégradés
par de la satire. Et donc Ouvrard fait une demande et obtient, au bout de 10 ans de demande, hein, une dérogation qui lui permet de se produire en habit militaire. Et à partir de ce moment-là, c'est un déferlement, littéralement, de comiques et de chanteurs troupiers. Et donc, le principal, disons, le plus attaché au godillot, aux chaussures, ils sont deux, c'est Paulin, hein, qui est peut-être le principal héritier d'Ouvrard à la toute fin du 19e siècle. Paulin qui véritablement met en scène en quelque sorte ses chaussures, c'est-à-dire qu'il s'adresse souvent à ses chaussures qui sont un élément comme ça de sa popularité, hein. Tout le monde connaît les chaussures de Paulin, et celui qui va reprendre dans le registre troupier cette chanson des godillots sont lourds, qui était une chanson chantée dans les casernes, hein, qui vient d'ailleurs, qui est une chanson, il y a une grande différence entre le refrain, vraiment les godillots sont lourds, ça c'est vraiment la caserne. Et puis les couplets hein, sont c'est une chanson beaucoup plus anodine, un peu sentimentale comme ça, sur presque une chanson de bergère en quelque sorte. Mais voilà, la chanson Les Godillots sont lourds, ça participe de cette sorte de nostalgie, de culte de la caserne. Hein. C'est là où à la fois on a souffert, mais aussi c'est là où on est devenu homme, c'est là où on est devenu français, et c'est là où on a appris qu'il fallait la revanche.
Hein. Et qui est ce deuxième
Alors ce deuxième, c'est Wilbert, hein, en 1896. Et là, il y a une véritable floraison de godillots dans la chanson troupière du tout début du 20e siècle jusqu'à la guerre de 14. Un godillot en 14, ça désigne le soldat français, presque autant que le poilu.
Christelle de Pelotec.
C'est ça aussi, parce qu'il faut dire que ce godillot qui symbolise donc le soldat et la revanche, ça va être finalement le seul élément de l'uniforme qui va subsister en 1914. C'est-à-dire que tout va changer, sauf les godillots.
Oui, et c'est très étonnant parce que effectivement, on le sait, l'armée française arrive en 14 à la guerre dans une tenue totalement décalée.
Garance c'est bleu horizon.
Voilà, donc c'est une catastrophe. Donc l'uniforme change très vite, hein, évidemment, pour s'adapter à la guerre moderne. Et la seule chose qui reste, c'est le godillot. Or, le godillot n'est pas fait pour la guerre de 14. C'est une chaussure de marche, c'est une chaussure pour la guerre en mouvement. La guerre de 14, c'est une guerre de tranchées qui se passe dans la boue. Donc ça montre, malgré l'inadaptation du godillot à la guerre de 14, le godillot subsiste. Ça montre l'attachement qui est plus qu'un attachement technique, en quelque sorte. C'est un attachement véritablement symbolique. C'est l'identité même du soldat qui passe par ses chaussures. Il y a beaucoup de récits de poilus qui racontent cet attachement viscéral, sentimental, comme ça, au godillot. Les Allemands, par exemple, sont beaucoup mieux adaptés. L'armée allemande est en bottes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des chaussures de marche. On ne peut pas marcher avec des bottes, on ne peut pas marcher plus de quelques kilomètres avec des bottes par jour. Par contre, c'est une chaussure qui est très très efficace dans l'humidité des tranchées. Les soldats français récupèrent souvent des bottes sur les cadavres des soldats allemands, mais ils ne quittent pas pour autant leur godillot. Donc il y a vraiment un attachement qui est d'une certaine manière inexplicable techniquement, et donc dont la seule explication, c'est ce lien symbolique et sentimental.
Christelle de Pelotec.
Et c'est ça qui va expliquer, à votre avis, le fait que après cette Première Guerre mondiale, les godillots vont quitter finalement un peu le domaine militaire et puis s'introduire chez les paysans, et puis cette nouvelle race qui naît à ce moment-là, les excursionnistes.
Hein. Voilà, on pourrait appeler ça ce que j'appelle le moment de l'extension maximale du domaine du godillot. Hein. c'est ce moment où, effectivement, les paysans arrivent à la guerre en godillot et arrivent à la guerre en sabot plutôt, mmh. Hein, c'est la chaussure traditionnelle du paysan, et repartent de la guerre en godillot. Alors le godillot va s'adapter effectivement aux travaux des champs, par exemple, à la vie rurale, qui n'est pas a priori son univers premier, hein, c'est vraiment une chaussure militaire, une chaussure de marche, mais le godillot, notamment par temps sec, hein, est tout à fait efficace pour les travaux des champs, pour la chasse. Hein, ça, le chasseur adopte évidemment le godillot. Par contre, le sabot est bien plus efficace par temps humide. Mmh. Donc voilà, la terre ne colle moins au sabot qu'au godillot, et le sabot protège mieux face à l'humidité et au froid. Donc voilà, il y a une première extension qui est quand même assez phénoménale du godillot, et puis une deuxième extension qui est effectivement celle de la naissance de la randonnée. Le godillot va devenir la chaussure des marcheurs, de ce qu'on appelle à ce moment-là les excursionnistes, hein, qui sont en train, juste avant et juste après la Première Guerre mondiale, ils sont en train de s'organiser, de s'émanciper de leur origine alpine. Hein. Au début, ils étaient fondus avec les alpinistes. Ils sont en train de fonder leur propre société de marche, notamment autour du Touring Club de France. Et ce sont des sociétés massives et de masse. Et donc, il faut une chaussure qui soit à la fois efficace pour marcher et une chaussure économique. Or, le godillot est cela, c'est-à-dire que le godillot de randonnée va être une sorte d'adaptation du godillot classique à la randonnée, à la montagne, notamment. Il y a toute une une seconde petite histoire d'une aventure industrielle, hein, qui est cette vallée des Dolomites, hein, la vallée de Monte Belluna, près du front des Dolomites.
Hein, et qui profite donc de cette Première Guerre mondiale.
Qui profite de la proximité du front et de ce qu'on appelle la guerre des glaces, hein, pour produire en masse des chaussures de montagne qui sont faites sur le modèle du brodequin napolitain, c'est-à-dire du godillot, et qui vont envahir le marché de la randonnée à partir des années 1920. Et donc, voilà, le godillot se développe, hein, s'étend par les paysans et par les randonneurs.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Quand les bleus à la caserne arrivent, non d'une giberne, on commence par leur donner une paire de gros souliers. Ils sont gracieux, allure légère, nous en avons tous une belle paire. Et quand chacun les a retirés, ça ne sent pas la roseté. C'est la marche des gros souliers que l'on met à nos petits pieds. Y'a pas à dire, c'est épatant ce que nous sommes bien là-dedans. Mais pour mieux bouffer du chemin, de chandelles ils sont toujours pleins. Et tous en cœur on aime chanter la marche des gros souliers. Quand on rentre dans la chambre le soir après la corvée, et chaque homme s'est déchaussé, y'a de quoi tomber asphyxié. Mais à la promenade du dimanche, avec nos belles guêtres blanches, on aime se faire reluquer par les bobonnes du quartier.
C'est la marche. Ah, l'esprit français qu'on regrette tout le temps quand on parle de cette période-là. Franchement, quand on réécoute ces chansons, on est un peu surpris de ce ton, peut-être, sans faire d'anachronisme. Alors, et tout de même, il faut bien dire, avec Christelle Opolotek, nous parlons avec vous, Antoine Debac, de votre livre sur les godillots, manifeste pour une histoire marché, pour ce premier volet de notre série sur les itinéraires de voyage sur les routes, que combien il y a de soins à porter au pied de ceux qui vont marcher pendant ces années 20 et ces années 30 après la Première Guerre mondiale. Vous mettez dans votre livre de nombreuses recettes pour savoir s'il faut mettre du suif dans les pieds, s'il faut les talquer, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir justement marcher longuement. Et ceux qui marchent longuement, ça peut être les scouts, ça peut être les gens des auberges de jeunesse, ça peut être les gens qui autour de Léo Lagrange et du Front Populaire diront que les godillots permettent aux jeunes de se libérer de la ville, les inégalités disparaissent avec les chaussures identiques pour tous, dit Léo Lagrange.
Absolument, c'est vrai que on est devant cette culture de, on pourrait dire, d'une sorte d'attachement à ces chaussures, là, bon, qui est héritée, voilà, des soldats de la Première Guerre mondiale. Et voilà comment le godillot est une sorte de symbole de la, pour le soldat, de la guerre, de la survie, hein, et pour le marcheur, évidemment, du fait qu'il va lui aussi survivre et continuer à marcher. Donc il y a tout un attachement qui se dit par de multiples façons. Effectivement, il y a toutes ces conseils techniques pour comment choisir ses chaussures, comment les entretenir. Un de ces grands marcheurs, juste après la Seconde Guerre mondiale, crée une rubrique, par exemple, dans une de ses revues, comme ça, qui dit cette culture, qui s'appelle Camping plein air, hein, qui s'appelle Godillot nos amis.
Hein, voilà. Et pourtant, Yvon Gallo, qui était considéré avant la Seconde Guerre mondiale comme le roi des marcheurs, disait pique-pendre du godillot, lui préférant l'espadrille.
Absolument, c'est-à-dire que le godillot a aussi été très très attaqué par les marcheurs, puisque c'est une chaussure lourde, c'est une chaussure qui est inconfortable, et donc il y a eu des multiples attaques, notamment de marcheurs alternatifs, hein, qui ont proposé, et Yves Gallo en est un bon exemple, une sorte de contre-marche fondée beaucoup plus, par exemple, sur d'autres cultures, la culture indienne, hein, voilà, donc marcher avec des espadrilles, c'est beaucoup plus proche de cela. Mais en même temps, voilà, on retrouve, et le meilleur symbole de cela, c'est, il se forge, bon, il y a toute la culture des godillots qui est propre à, aux agistes, hein, aux auberges de jeunesse, avec des nombreuses chansons. Hein, voilà, où les godillots sont un élément important, où on, qu'on chante, qu'on se chante au coin du feu, à l'auberge de jeunesse.
Ils chantent même la civilisation des godillots.
Voilà, absolument. Mais le symbole peut-être le plus précieux, c'est le sigle, le logo du vieux campeur. Mmh. Hein, ce personnage qui apparaît très tôt, dès le vieux campeur, c'est 1941. Hein, et très vite apparaît ce petit personnage, la pipe au bec à l'époque, la barbe, le sac à dos rond, hein, les sacs boules comme ça qu'on portait à l'époque, et puis le godillot au pied. Hein, et ce qui est absolument logique en 1941, tous les marcheurs sont équipés de godillots, mais le plus étonnant, c'est que le personnage du vieux campeur va évoluer. Il va évidemment perdre sa pipe à un moment, remplacé par la marguerite. Il va prendre une allure peut-être un petit peu plus dégagée, un peu plus rapide, mais il va toujours conserver ses godillots au pied, alors que le godillot a disparu, hein, depuis belle lurette. Donc, ça dit toujours cet attachement, quasi sentimental, comme ça, godillot nos amis. Hein, il y a toute une culture comme ça du godillot chez les marcheurs.
Christelle de Polotec.
Et un des symboles peut-être de cette transsubstantiation du godillot, c'est-à-dire le passage du godillot militaire au loisir, c'est cet extrait là, que vous citez dans votre livre, un extrait du guide Johan, dont nous parlerons évidemment dans notre émission sur les guides de voyage demain. Mais en l'occurrence, voilà, même dans les guides de tourisme, ils conseillent le godillot.
Bien sûr, c'est-à-dire que le godillot devient l'allié premier du marcheur, et donc tous les guides, les guides Johan, mais c'est, on retrouve le même phénomène, par exemple, dans les guides allemands, Bedecker, ou des choses comme ça. Il y a la constitution impérieuse, hein, d'une identité marcheuse autour de sa chaussure, et donc voilà, les guides sont un des éléments de ce que vous nommez très justement une transsubstantiation, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup et d'une certaine manière c'est presque le projet du livre, c'est-à-dire qu'un micro-objet comme le godillot, hein, permet de voyager et de décrire tout un imaginaire qui dépasse de loin la seule caractérisation technique comme ça, technologique et pratique de la chaussure.
Oui, alors vous avez un chapitre, on ne va pas s'y étendre, sur les godillots de Van Gogh, qui est très intéressant. En fait, il peint 9 natures mortes au godillot, au soulier en l'occurrence, mais vous nous expliquez dans un autre chapitre donc que tout cela s'arrête avec la Seconde Guerre mondiale, la modernisation, l'arrivée du caoutchouc industriel, qui va privilégier la patogasse et tout un tas d'autres chaussures qui ne sont plus des godillots, les Rangers pour l'armée, sur le modèle américain. Et vous concluez sur un chapitre sur lequel il faut quand même s'arrêter un tout petit peu, puisque ça fait partie de l'actualité, sur cette invention par un député UNR, donc qui vient de Béziers, dans l'Hérault, il s'appelle André Valabrègue, de cette expression « nous sommes les godillots du général », on est en plein gaullisme, donc dans les années 60, et cette expression qui est une expression du style petite phrase dans la salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale, va devenir pour les anti-gaullistes une sorte de bénédiction qui va permettre en particulier au Canard Enchaîné, il y a très exactement 50 ans, puisque c'était en mars 1967, de commencer toute une série sur justement cette métaphore du godillot, de ceux qui ne font que servir le général, s'agenouiller même sans jamais remettre en question ce qui vient de l'Élysée.
Absolument, c'est il y a évidemment une certaine ironie de l'histoire. 400 députés débarquent à l'Assemblée d'un parti qui s'appelle En Marche, qui se désigne eux-mêmes d'ailleurs comme les marcheurs. Donc on a l'impression de revivre à 60 ans de distance l'arrivée en 1959, hein, au tout début de l'année 59, de ces députés gaullistes, hein, qui venaient de rien aussi, hein, souvent pour la plupart, qui étaient inconnus et qui tout d'un coup ont envahi l'Assemblée. Alors ils étaient un petit peu moins nombreux, ils étaient 250, mais très vite s'est imposée cette expression du parti godillot. Hein. Alors comment elle est née effectivement de une sorte de maladresse d'un de ces députés comme ça néophytes hein, qui a dit alors sa phrase exactement visiblement c'est donc André Valabrègue député du Midi de Béziers et qui dit nous sommes les chaussures de marche du général. Donc c'était une voilà cette métaphore militaire hein, un peu bonapartiste, un peu trop bonapartiste d'ailleurs au goût du général qu'il a tout de suite repoussé, mais le Canard Enchaîné s'en est emparé immédiatement et donc pour présenter ce parti des Godillots, ce député Godillot avec énormément de ressources humoristiques, de dessins, de blagues.
Vous reproduisez un dessin de Moisan où on voit ce député donc en coupe comme une sorte d'anatomie. Il n'a pas de cerveau, il est marqué vide absolu au-dessus des sourcils, la cervelle est à l'Élysée. Il a la tripe anti-républicaine, le sexe est censuré par Tante Yvonne. Il a un bras tentaculaire, il a des rotules renforcées résistant à la genouillement prolongé, garantie 4 ans, donc la durée d'un mandat. Et ensuite, effectivement,
au pied,
il a des godillots en l'occurrence.
Absolument. Et donc le godillot devient le remplace carrément le député dans le Canard Enchaîné. Alors ça ne naît pas de rien. Ça naît de cette petite phrase malheureuse de Valabrègue, et ça naît aussi de toute une discussion. Alors là, vraiment très intéressante sur la politique du parti gaulliste, hein, l'UNR, qui prône ce qui s'appelle l'inconditionnalité. Hein, le soutien inconditionnel au général et ce soutien inconditionnel au général, la transcription, disons, satirique de l'inconditionnalité politique, hein, de la théorie de l'inconditionnalité politique, c'est le parti Godillot.
Christelle Le Polothèque.
Oui, vous rapportez d'ailleurs les propos de Perfit, qui rapporte lui-même les propos de De Gaulle. La seule façon de faire marcher les parlementaires, c'est de leur dire, messieurs, il faut parler un seul langage, l'unité. Donc ça n'est pas juste dans l'esprit du Canard Enchaîné.
Non, c'est vraiment les plusieurs des congrès de l'UNR du début des années 60 et les députés de l'UNR se divisent, notamment par exemple Chaban-Delmas, lui face à l'inconditionnalité, à la théorie de l'inconditionnalité, crée ce qu'il appelle la théorie du domaine réservé, c'est-à-dire qu'il y a un domaine réservé du président de la République où il y a inconditionnalité, et hors du domaine réservé du président de la République, tout est discutable. Donc c'est une sorte de contre-théorie face à l'inconditionnalité. Et face à la théorie du domaine réservé, il y a celle de l'inconditionnalité. Et donc c'est ce que désigne évidemment l'appellation Godillot, ce sont ces députés inconditionnels, c'est-à-dire les députés bas du front, si vous voulez. C'est-à-dire ce sont ceux qui voteraient les yeux fermés la moindre décision, la moindre loi venue de l'Élysée et du Premier ministre. Oui, c'est vrai qu'on voit réapparaître périodiquement, et on le voit réapparaître aujourd'hui, hein, cette expression du danger d'un parti Godillot. Et bon, l'ironie, évidemment, c'est que tout cela désigne un parti qui, aujourd'hui, presque comme s'il assumait complètement cette métaphore pédestre, s'appelle lui-même En Marche.
Ouais,
voilà. Alors, donc les marcheurs est-ce que les marcheurs sont-ils destinés à devenir des godillots? Voilà la question qui va un petit peu agiter le monde politique pendant quelques mois.
Alors il faut quand même féliciter les éditions Anamosa de la très belle édition qui a été faite de votre Godillot manifeste pour une histoire marchée, puisqu'on a beaucoup de reproductions, y compris des reproductions des tableaux de Van Gogh, dans le chapitre qui lui est consacré, mais aussi effectivement de ses dessins d'escarreaux, je pense, une double page assez formidable où on voit effectivement voter Godillot dans un Godillot, et donc c'est pour Pied Jacon en l'occurrence, ou encore à Vincent Despieds, l'UNR reconnaissante, c'est un piédestal de statue, et en l'occurrence effectivement il y a au-dessus de ce piédestal un Godillot, etc.
Donc il y a ça, c'est le dictionnaire des Godillots Berlioz, ce chef-d'œuvre de la satire antigaulliste. Et c'est vrai que heureusement, d'une certaine façon, qu'il y a eu cela, hein, parce que c'était le seul véritable contre-pouvoir, le Canard enchaîné et les.
Bah, c'était la cour de Moisan, justement.
C'est la cour de Moisan, le Canard enchaîné, cette culture satirique, et heureusement qu'il y a eu cette invention comme ça du Godillot, ce retour un peu paradoxal du Godillot qui désignait à la fois une sorte de péché de naissance du gaullisme, hein, de péché bonapartiste, comme ça désignait très directement cela, cette sorte de mythologie militaire qui entoure le général, hein, qui dit son pouvoir, qui dit son prestige évidemment, mais qui dit en même temps cette sorte de tentation de l'inconditionnalité, c'est-à-dire personne ne bouge, quoi. Et donc voilà, le Godillot dit très bien cela, et le Canard enchaîné a su véritablement en faire tout un monde, hein, tout un univers qui s'est mis à exister autour du dictionnaire des Godillot.
Et quand vous avez et on a commencé là-dessus avec vous, Antoine Debac, évoqué cette idée d'histoire marché, vous pensiez en faire entre guillemets une œuvre, c'est déjà il y a deuxième livre qui paraît sur cette thématique, mais en revanche on ne voit pas embrayer d'autres essais de ce type-là, alors que effectivement il y a beaucoup de potentialité dans ce que vous démontrez dans le premier, La traversée des Alpes, comme dans celui-ci, comment on prend un objet aussi simple que le Godillot et en l'étirant, pourrait-on dire, ou en le disséquant, on arrive à en sortir énormément de choses au point de vue historique. Vous espérez qu'il y ait des gens qui s'y mettent ?
Bah, disons, moi, je me sens déjà dans une tradition. C'est ce qu'on appelle la micro-histoire. Voilà, ça a été inventé
il y a une cinquantaine d'années même.
Donc, alors après, moi, oui, faire souche,
faire école,
c'est le rêve de tout historien. En tout cas, je pense qu'il y a un vrai champ de recherche qui s'ouvre, et d'une certaine manière. Vous en êtes, hein, en faisant cette série sur les itinéraires, hein, c'est ce champ que bon j'appelle l'histoire de la marche, l'histoire marché. Et oui, je pense que de plus en plus de jeunes historiens vont s'emparer de ce type de sujet, parce que c'est à la fois c'est un sujet qui à la fois voilà permet de traverser les époques, permet de traverser les champs, et puis il met effectivement en jeu l'intimité même de l'historien qui retrouve un sujet qui est aussi d'une certaine façon son sa propre biographie, son propre corps.
Les Godillot, Manifeste pour une histoire marché, est publié aux éditions Anna Mozin. Alors on continuera demain sur ces itinéraires avec vous, Christelle Le Polotek, dans un documentaire que vous avez conçu et qui a été réalisé par Anne Fleury.
Oui, un itinéraire très précis, un itinéraire du Paris au Havre, pour illustrer l'invention des guides de voyage au 19e siècle. Un petit extrait avec Sylvain Venère.
Ces guides sont très majoritairement des guides des régions de France. On va chercher les origines de la France dans ces monuments. Et sans doute le meilleur témoignage qu'on peut avoir de ça, c'est le premier volume des voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France de Taylor, Naudier et Cailleux, qui concerne précisément la Normandie, qui sort en 1820, qui est fondé sur cette technique nouvelle de la lithographie et qui permet de présenter au public, sous la forme d'un voyage, le passé glorieux de la France d'avant la Révolution.
Avant même les guides Joanne d'Achette, dans les guides Richard ou les autres guides qui se publient à partir des années 1830, on va avoir arrivé beaucoup plus d'informations pratiques. On va conserver la partie descriptive, mais on va la lier à des informations très pratiques du genre les horaires des trains, le prix des billets, ce genre d'indications. Et ça va devenir systématique.
Guide Conti 1887, conseils pratiques. Des bagages. Si vous faites une excursion en Normandie, comme touriste ou promeneur, emportez avec vous le moins de bagages possible, ou pour mieux dire, voyagez militairement, vous contentant du nécessaire et rien de plus. Voyagez-vous au contraire par genre, je parle ici des dames, et devez-vous faire une saison soit à Dieppe, soit à Trouville ? Emportez alors de nombreuses malles, d'innombrables cartons et des toilettes de toute espèce. Car si vous voulez trôner au casino et faire sensation, il vous faut au moins 3 toilettes par jour.
Il y a également, d'ailleurs, il y a quelques guides, alors ils sont très rares, des guides qui sont tous un petit peu en dehors des clous et qui s'intéressent notamment à ce qu'on peut voir sur les plantes. Ça, c'est plutôt vers la fin du 19e siècle. On a des guides sur la découverte des plantes, mais même auprès d'une ligne de chemin de fer. Et on dit, ben, là, vous avez un lichen machin très rare, etc. Et puis là, des petites plantes. Et c'est, moi, c'est des guides qui m'amusent beaucoup.
Voilà un extrait du documentaire qu'on pourra entendre demain donc dans la Fabrique de l'Histoire, que vous avez conçu et réalisé, Christelle Lepolitec, avec Anne Fleury. Et on continuera encore après-demain et jeudi à évoquer cette question de la marche, mais également des routes avec les itinéraires de voyage. C'est mercredi et jeudi.
Les guides, le pèlerinage,
voilà,
mercredi,
voilà,
tout particulièrement.
Et jeudi, nous serons intéressés par la transformation du paysage liée à l'automobile.
Et aux routes, absolument.
Et aux routes, exactement. Merci beaucoup, Christelle Lepolitec. Merci à vous, Antoine de Bac. Et donc, à demain. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Yanis Djoudad nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.